Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL dans lequel on va s'intéresser à l'avenir incertain de celui qui règne depuis 20 ans maintenant sur la Turquie.
Notre tâche n'est pas un simple marathon. Cela va bien au-delà. Notre rôle est un combat pour l'humanité qui est le combat d'une vie. C'est pour cela qu'il nous faudra beaucoup d'énergie.
Recep Tayyip Erdogan, à l'époque maire d'Istanbul, aujourd'hui président de la Turquie et qui remet son mandat en jeu en ce printemps 2023. Une élection incertaine comme jamais pour le Reis et on va tenter ici de comprendre pourquoi. Avec le correspondant de RTL en Turquie, Timur Özturk, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et avec également Guillaume Perrier, journaliste, reporter au Point, longtemps basé en Turquie, auteur de plusieurs livres sur ce pays et son président. Bonjour à vous.
Bonjour Marion.
Alors je voudrais d'abord que l'on plante le décor de cette élection avec toi Timur. Il y a donc Erdogan d'un côté avec son parti, l'AKP. Et en face, il y a qui ?
Eh bien, Recep Tayyip Erdogan a un adversaire principal, Kemal Kılıçdaroğlu. Il a 74 ans, c'est un ancien haut fonctionnaire, un technocrate au départ, qui a pris les rênes de la plus grande formation d'opposition, le Parti Républicain du Peuple, le CHP, en 2010. C'est le parti kémaliste, c'est-à-dire c'est le parti qui est héritier du courant politique de Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la République il y a 100 ans. C'est une tradition politique nationaliste, laïque, étatiste. Et autour de sa candidature, il y a une coalition qu'on appelle l'Alliance de la Nation. C'est 6 partis politiques. Ça va des ultra-nationalistes jusqu'au centre droit, en passant par des petits partis islamistes. C'est donc une alliance qui penche plutôt à droite, sans grande cohérence idéologique. C'est surtout un front anti-Erdogan, en fait, avec quand même un programme commun dont le principal point d'accord, c'est le retour à un système parlementaire, la fin du régime présidentiel autoritaire institué par Recep Tayyip Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu, il est aussi soutenu par la gauche pro-kurde, mais ils ne font pas, eux, partie de la coalition. Et puis, bon, il y a aussi 2 petits candidats à la présidentielle qui n'ont aucune chance d'être élus, un prétendant d'extrême droite et un dissident du CHP.
Ouais, donc la principale force face à Erdogan, c'est donc cette opposition hétéroclite, on l'a bien compris, mais alliée derrière ce candidat, Kemal Kılıçdaroğlu, qui a fait des considérations économiques et sociales le cœur de sa campagne.
La Turquie doit rivaliser avec le reste du monde. Nous le ferons, ne vous inquiétez pas, nous apporterons la fraternité, l'amour et la tolérance. Nous soutiendrons notre peuple contre l'inflation.
Timur, toi qui vis en Turquie, à Istanbul et qui sillonne le pays pour tes reportages, ces questions économiques et sociales, là, il parlait de l'inflation, elles sont vraiment centrales pour les Turcs. Ils te disent quoi aujourd'hui de leurs conditions de vie ?
Ah oui, c'est la question centrale, c'est la principale préoccupation des Turcs, c'est l'économie. Ça se voit au quotidien, ça se reflète aussi dans les enquêtes d'opinion et de très loin. On parle d'une inflation qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe, en France, dans le reste du monde où on a pourtant une crise inflationniste. Selon les chiffres officiels, on est monté à l'automne dernier jusqu'à 85% d'inflation annuelle. Selon d'autres chiffres indépendants, on est largement au-delà des 100%. Donc ça se voit tous les jours, hein, au marché, au supermarché, au restaurant, quand on prend le bus, les prix changent très vite, augmentent énormément. Ça a beaucoup appauvri une classe moyenne turque qui avait réussi à avoir un certain confort, un certain mode de vie. Ça touche forcément aussi les classes populaires qui étaient déjà en difficulté. Donc c'est la préoccupation numéro un. C'est ce qu'on retrouve quand on interroge les gens qui vont voter pour l'opposition, qui disent bah, « je vais au marché, je regarde les prix, je change de commerçant, je prends 2 kilos de tomates, je rentre chez moi, j'ai plus grand-chose dans mon frigo ». C'est l'un des thèmes de campagne de Kemal Kılıçdaroğlu qui, par exemple, parle de choses très simples, le prix des oignons, qui devient inaccessible, des pommes de terre. Donc oui, l'inflation, c'est l'un des sujets de cette campagne.
Guillaume Perrier, on a longtemps parlé pourtant du miracle économique turc sous l'ère Erdogan, d'une économie florissante pour ce pays. Que s'est-il passé ?
Eh ben, c'est toute l'histoire, justement, c'est toute l'histoire de ces 20 années de pouvoir d'Erdogan. Alors, pour resituer un petit peu les choses dans le contexte, il y a eu effectivement jusqu'en 2009 une période de très forte croissance, hein. Erdogan est arrivé au pouvoir en 2003, donc entre 2003 et 2009, Le revenu par habitant des Turcs a été multiplié par 2,5, quasiment par 3. Donc c'était effectivement une croissance spectaculaire qui a été permise, il faut quand même le rappeler, par une série de réformes économiques et un accompagnement du Fonds monétaire international pour poursuivre ces réformes en Turquie, qui avait été mise en place avant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Donc je dirais que c'est le gouvernement précédent qui a mis en place toute cette politique de rigueur, hein, et dont Erdogan ensuite a pu tirer les bénéfices une fois arrivé au pouvoir. Mais effectivement, à partir de 2009, il y a une crise financière mondiale qui fait que la Turquie est un petit peu ralentie. Et puis après, surtout, ça va être l'économie turque va être victime des conséquences, je dirais, de la politique peu orthodoxe du gouvernement, hein, puisqu'Erdogan, à partir de cette période, a commencé à avoir une politique assez particulière de baisse des taux d'intérêt, sans doute de par sa culture islamique, hein, qui veut que l'usure soit quelque chose d'interdit par la religion. Donc il y a une politique d'intervention sur la Banque centrale qui a perturbé l'économie, qui a fait monter l'inflation et qui a engendré les déboires économiques qu'on connaît depuis quelques années. Et puis surtout, je dirais qu'il y a quelque chose qui déplaît toujours à l'économie et aux investisseurs, c'est l'instabilité politique, c'est l'absence d'état de droit. Et malheureusement, la Turquie est dans cette situation depuis plusieurs années maintenant, ce qui fait que ce miracle économique dont vous parliez et qui effectivement accompagné Erdogan pendant les premières années de son pouvoir, aujourd'hui c'est malheureusement une histoire ancienne. Et l'économie turque est en très très mauvaise santé, comme le disait Timur. Je crois que la préoccupation principale de tous les Turcs aujourd'hui, c'est effectivement le prix des oignons, le prix de l'énergie. La Turquie est un des pays qui a le plus souffert de l'augmentation des prix de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. Tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent une paupérisation grandissante de la population turque.
Un pays donc et un peuple qui souffre et qui ont vu aussi le pouvoir évoluer au fil des ans, notamment après cette tentative de coup d'État à l'été 2016.
Des soldats rebelles ont cherché à prendre le pouvoir en s'attaquant notamment au Parlement qu'ils ont bombardé à Ankara. Le président turc Erdogan a atterri quelques heures plus tard à Istanbul. Il a appelé la population à résister aux putschistes. Appel visiblement entendu ce matin. Plus de 1500 soldats rebelles ont été arrêtés. 200 autres sont toujours retranchés. Mais l'on dénombre aussi au moins 90 morts et plus d'un millier de blessés.
Est-ce que ça a été, Guillaume Perrier, un basculement aussi vers un régime plus autoritaire?
Je ne dirais pas ça, parce que le basculement était antérieur à ça. Je dirais que c'était plus une conséquence de l'autoritarisme qu'autre
chose. Parce qu'après, il y a eu des purges, après cette tentative de coup d'État, il y a eu des purges dans un certain nombre de grands corps d'État.
Oui, les purges se sont accélérées, mais les purges ont commencé dès 2013 et même encore avant, si on regarde les choses avec une perspective un peu plus large. Les purges, elles ont commencé dès 2007, si vous voulez, avec les grands procès contre les militaires pour purger l'armée d'une partie aussi qui était très hostile au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la purge est un mode de gouvernement en Turquie depuis très longtemps et bien avant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Les coups d'État sont également une pratique assez régulière qu'on pensait révolue, hein, quand Erdogan a mis la Turquie sur la voie de l'Union européenne. On pensait que ce type de pratique appartenait au passé, mais force est de constater que ça reste quelque chose de très ancré dans la culture politique. Donc oui, 2016 et ce qui a été présenté comme un coup d'État, aujourd'hui encore, personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans cette nuit du 15 juillet 2016, mais ça a été un accélérateur de la répression par Erdogan. Lorsqu'il reprend le pouvoir au matin du 16 juillet 2016, Erdogan a cette formule. Il dit que ce coup d'État a été pour lui un cadeau de Dieu. Donc ça lui permet effectivement, à partir de ce moment-là, de durcir, de présidentialiser à outrance son régime, d'abord de s'appuyer sur un état d'urgence pour mener toutes les réformes qui lui conviennent, et puis de provoquer une union nationale. Hein. Il faut se souvenir qu'à l'époque, tous les partis politiques étaient réunis derrière lui parce que il fallait soutenir ce qui était l'ordre institutionnel, si vous voulez. Donc voilà, Erdogan a très habilement su tirer tous les bénéfices.
Un régime donc plus autoritaire et plus religieux au fil des ans, comme on attestait d'ailleurs cet épisode. C'était un symbole, ce choix en 2020 de refaire de la fameuse Sainte-Sophie à Istanbul, qui était devenue un musée, une mosquée.
Depuis 1934, Sainte-Sophie était un musée. L'ex-basilique va devenir une mosquée.
Une décision prise par les autorités turques qui déplorent clairement le gouvernement français, mais aussi l'UNESCO ou encore la Grèce, qui parle de provocation, je cite, envers le monde civilisé.
C'est une autre évolution, ça, du pouvoir d'Erdogan, Guillaume Perrier, cette évolution vers un islam de plus en plus présent au cœur du pouvoir.
Alors là aussi, je vais être un petit peu en contradiction avec la manière dont vous présentez les choses. Je ne pense pas que l'islam soit de plus en plus présent au cœur du pouvoir. Il y a même plutôt l'effet inverse ces dernières années, avec un recul plutôt de la pratique religieuse, une désaffection de l'opinion turque pour tout ce qui incarne l'islam politique tel qu'Erdogan l'a promu. Je pense que depuis 2015, au moins, le moteur du pouvoir d'Erdogan, ça n'est pas la religion, c'est le nationalisme turc qui est au cœur de toute sa politique, au cœur de son alliance avec l'extrême droite des loups gris en interne, au cœur de son rapprochement avec la Russie. Donc la religion a toujours effectivement été l'islam politique a toujours été la culture profonde d'Erdogan, c'est son parcours politique de militant, voilà. Mais ça n'est pas aujourd'hui le moteur de son pouvoir et je pense que la sécularisation profonde de la population turque n'a pas été fondamentalement remise en question par ces années de pouvoir.
Et Timur, est-ce que ces considérations-là autour de l'islam politique, autour d'un régime plus répressif, est-ce que ça pèse dans la campagne? Est-ce que ça compte pour les Turcs?
Oui, je pense que quand même c'est un élément qui revient dans cette campagne, au moins dans la propagande et les discours de Recep Tayyip Erdogan. La question de la sécularisation de la société, du fait que le projet ne fonctionne pas auprès d'une nouvelle génération, je rejoindrai assez Guillaume sur cette question-là. Mais pour autant, ça fait toujours partie de ce que met en avant Recep Tayyip Erdogan. Il attaque son opposant dès qu'il en a l'occasion, sur des fondements religieux. Il y a pu avoir une scène assez anecdotique pourtant, son opposant Kemal Kılıçdaroğlu qui n'a pas retiré ses chaussures et a marché sur un tapis de prière par mégarde. On a eu une semaine de polémique agitée par le pouvoir derrière ça. On a dans ces meetings, malgré tout, toujours une base islamiste présente qui font partie de confréries religieuses qui ont un agenda pour important pour eux. Sainte-Sophie, c'est un symbole majeur pour ces électeurs-là. On peut penser aussi à l'éducation religieuse, etc. Et dans l'alliance autour du président Erdogan, car lui aussi fait partie d'une coalition, on retrouve des formations mineures, mais qui sont des formations islamistes, parfois même des formations assez radicales avec lesquelles il n'avait jamais collaboré jusqu'ici. Donc je pense quand même que la question des symboles religieux et de son parcours de militant islamiste reste au cœur de son projet, même si la question peut se poser: est-ce que ça suffira à attirer une majorité d'électeurs derrière lui? Est-ce que c'est le principal moteur du vote Erdogan? Peut-être pas, mais ça fait partie du paysage politique, c'est très présent.
Oui, il y a donc cette réelle incertitude, et puis aussi d'ailleurs ces tensions que suscite le scrutin jusque dans des bureaux de vote en France, comme en attestait à Strasbourg Yannick Holland pour RTL.
Oui, cette tension est palpable avec ce défilé ininterrompu de voitures devant le consulat de Turquie à Strasbourg. C'est l'un des deux seuls bureaux de vote du Grand Est. Eyüp le reconnaît, c'est un sujet sensible, même avec ses amis.
Il y en a qui évitent d'en parler, c'est tabou. Il y a une certaine partie de la population qui veut que ça se change. Il y a une partie de la population qui soutient encore Recep Tayyip Erdogan. C'est un peu tendu.
Burak Uskuzucu est le responsable du CHP pour le Grand Est. C'est le premier parti d'opposition à Erdogan. Il surveille le déroulement du scrutin.
Je suis là jusqu'aux fermetures des urnes.
Malheureusement, ici, il y a des jeunes, du fait de leur sang chaud, rentrent dans des provocations. Le risque de perdre après 20 années de présidence, je pense que ça les fait peur.
Des tensions qui se manifestent aussi en Turquie, avec des incidents lors de divers meetings de l'opposition. Il y avait ce témoignage sur les jeunes dans ce reportage de Yannick Holland à Strasbourg. Les jeunes, Timur, ils seront essentiel dans ce scrutin. Leur poids est considérable et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de l'incertitude.
Oui, parce qu'on a toute une génération qui a grandi, qui est née sous Erdogan, qui n'a jamais connu personne d'autre à la tête de la Turquie. Ce sont donc des primo-votants qui ont 18, 19, 20 ans et ils sont très nombreux. Plus de 5 millions d'électeurs, ça fait à peu près 8% du corps électoral turc et dans un paysage politique où certains sont ancrés sur leur vote, leurs convictions, ces nouveaux arrivants peuvent faire basculer le vote assez clairement. On dit que ces jeunes sont en majorité pour le changement, pour l'arrivée de Kemal Kılıçdaroğlu, en tout cas surtout pour le départ d'Erdogan. Ça peut se vérifier dans des meetings. Moi j'ai croisé dans des meetings de l'opposition des jeunes dont toute la famille vote pour le président sortant, mais qui, eux, vont voter pour l'opposition. L'un d'entre eux me disait, j'ai pas l'impression de vivre en Turquie, j'ai l'impression de vivre dans le pays de l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, tant il est omniprésent et non connu que ça. Il y a une lassitude de cette jeunesse, avec une partie de cette jeunesse, notamment les plus diplômés, qui cherchent à partir à l'étranger, à s'exiler, qui n'est pas contente de son niveau de vie ou de son accès à certaines libertés, de l'ambiance pesante dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une base de jeunes qui voteraient Erdogan. On les voit aussi dans les meetings du président.
Alors, il y avait par ailleurs deux questions que je voulais vous poser sur ce qui rend ce scrutin incertain. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la santé d'Erdogan. Il a même dû interrompre sa campagne pendant quelques jours. Erdogan, il a 69 ans. Est-ce qu'elle se pose aussi, Guillaume Perrier, la question de sa capacité à rester au pouvoir ou c'est pas un sujet ?
Écoutez, si, je crois que c'est un sujet, même si c'est un sujet extrêmement tabou, hein, depuis 2011 déjà, même avant. Hein, je me souviens qu'à l'époque, il avait été hospitalisé pendant près de 4 mois, il avait disparu de la scène politique, sans qu'on ait beaucoup d'informations. Il avait été opéré 2 fois de l'intestin. Son chirurgien avait dit qu'il n'y avait aucun problème lié à un cancer, mais évidemment, ça avait soulevé beaucoup de doutes. Et je dirais que ces ennuis de santé récurrents, jusqu'à très récemment, ont toujours laissé planer cette possibilité. Et le manque d'informations, de transparence sur la santé du président ne fait que renforcer les soupçons. Alors après, il a eu un petit malaise il y a quelques semaines, qui a interrompu pendant quelques jours sa campagne, mais on voit aujourd'hui qu'il est absolument en pleine forme et qu'il a toute l'énergie nécessaire pour continuer à mener tambour battant sa campagne. Donc là, je dirais qu'à court terme, ça n'est pas vraiment un sujet. Maintenant, sur le moyen terme, effectivement, sa capacité à tenir le pouvoir sans être sous contrôle médical permanent pose question, effectivement.
Ça les interroge, les Turcs, Timur ?
Je pense que la question a finalement eu assez peu d'influence dans cette campagne. Il y a eu ce malaise qu'il a fait quasiment en direct à la télévision. L'émission a été interrompue. Et suite à ça, pendant 3 jours, il n'est pas retourné sur le terrain. Oui, à ce moment-là, ça a fait polémique. Mais finalement, l'opposition lui a souhaité un bon rétablissement, n'a pas tenté d'exploiter cette question-là. D'ailleurs, de peur qu'il y ait un retour de bâton, parce que ça aurait pas été très élégant. Je pense que son retour 3 jours plus tard à faire des meetings qui durent parfois plus d'une heure, des discours sans note rassure ses électeurs. Ceux qui ne votent pas pour lui, ce sont pas pour des questions de santé. Ceux qui votent pour lui, c'est pas ce malaise qui va les arrêter.
Et puis il y a un autre élément, ce sont les répliques politique du séisme du 6 février dernier.
Certains rescapés décrivent des scènes dignes de l'apocalypse en Turquie et en Syrie après une série de tremblements de terre.
Plus de 50 000 morts dans ce tremblement de terre. Erdogan était lui-même arrivé au pouvoir après un séisme ravageur. Est-ce qu'une nouvelle fois, Timur, les secousses de la terre pourraient peser dans sa carrière politique ?
Moi, c'est ce que j'ai cru personnellement au premier jour du séisme, quand on s'est rendu sur place. J'étais dans une région qui a été la plus touchée, celle du Hatay, la ville d'Antioche. On en a beaucoup parlé sur RTL. Et il y avait une grande colère face à la désorganisation de l'État, au retard des secours et des gens qui directement venaient à notre micro pour crier dans notre micro leur colère contre les autorités et contre Erdogan en particulier. particulier. J'en suis un petit peu revenu parce qu'on est retourné régulièrement dans cette région pour suivre la situation. Et cette colère, elle s'est petit à petit dissipée. On est revenu sur des clivages plus traditionnels dans ces régions. Il y a des circonscriptions pro-opposition, d'autres pro-Erdogan. Et puis il y a d'autres régions de Turquie qui ont été touchées par le séisme, qui sont des bastions du vote pour Recep Tayyip Erdogan et qui ne semblent pas avoir changé d'avis. Je pense qu'à la marge, une partie des gens touchés par le séisme auront peut-être revu leurs opinions à la lumière de la catastrophe. Ça a mis un coup d'arrêt terrible à la campagne de Recep Tayyip Erdogan, qui avait l'initiative avant le séisme. Ça a donné une possibilité à l'opposition de se faire entendre sur ces thématiques-là. Mais je ne pense pas que ce sera l'élément déterminant le jour du vote.
Mais alors, plus je vous écoute et plus j'ai l'impression, pour conclure, Guillaume Perrier, qu'il y a certes beaucoup de questions, des incertitudes, mais que finalement il n'y a pas grand-chose qui puisse ébranler actuellement le président turc.
Oui, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Je crois que c'est pas la première fois qu'on donne Erdogan au pied du mur, c'est pas la première fois qu'on le donne possiblement battu, c'est même arrivé à de nombreuses reprises. Il a été déstabilisé par des manifestations, par des procédures judiciaires, par cette tentative de coup d'État en 2016. Il est toujours parvenu à retomber sur ses pieds, donc je crois que l'incertitude, elle est d'abord inhérente à la nature du régime de Recep Tayyip Erdogan. Effectivement, les séismes, sa santé défaillante, tout ça sont des facteurs qui contribuent à créer cette incertitude, la crise économique très profonde, je crois que c'est principalement cet argument-là, mais c'est d'abord la nature de son régime et le fait que, depuis 10 ans, aucune élection ne s'est tenue dans des conditions normales. Donc, il n'y a aucune raison de penser que celle-ci pourra l'être, si vous voulez. Donc, Erdogan a encore beaucoup d'atouts dans sa main, et notamment celui d'être au pouvoir. Et je dirais que c'est quand même celui qui est en place qui a le plus de chances d'y rester.
Donc finalement, on va aussi plutôt peut-être mesurer avec ce scrutin, Timur Öztürk, le poids de l'opposition.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume. On a trop souvent donné Erdogan à bout de souffle, perdant, face à une opposition qui allait enfin le déstabiliser. Je pense malgré tout que cette fois-ci, le défi est encore plus dur à relever pour lui, du fait notamment de cette crise économique. La question que vient de soulever Guillaume sur les fraudes, la sincérité du scrutin, c'est une question assez importante, centrale même. Et on a des sons de cloche très différents en Turquie. On a une opposition qui dit « Mais non, vous verrez, malgré le caractère autoritaire de ce régime, malgré le fait que la campagne n'est pas équitable, l'accès aux médias, malgré le fait qu'il y ait des prisonniers politiques dans ce pays, l'élection s'est sacrée en Turquie, nous surveillerons les urnes, il y a des dizaines de milliers de Turcs qui sont volontaires pour aller observer le scrutin du matin jusqu'au soir, on a une participation très forte. L'opposition veut croire, en tout cas officiellement, au fait que l'élection se passera bien et que si Erdogan est défait, il quittera le pouvoir. Et puis on a des signaux inquiétants. Il y a ces précédents qu'a rappelé Guillaume, plusieurs élections marquées par des irrégularités et ces derniers jours, des tensions, notamment un meeting de l'opposition qui a été violemment caillassé avec des blessés. On est vraiment dans cette incertitude et à quelques jours du vote, difficile de dire comment se déroulera cette journée d'élection.
Et on va donc continuer à suivre cette campagne et ce scrutin aussi avec toi, Timur Öztürk, en Turquie pour RTL. Merci à toi, merci à vous aussi, Guillaume Perrier, journaliste, reporter au Point, de nous avoir accompagné dans cet épisode de Focus, de nous avoir un peu éclairé aussi sur la situation politique actuelle en Turquie. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr. Yeah.